La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jevenot.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures belges au bout du monde. Et plaisir amplifié aujourd'hui parce que je mets un visage sur une voix que j'ai entendue, vous aussi, il y a 3 ans. On avait fait une émission radio avec toi, Mélanie, bonjour.
Bonjour Adrien, bienvenue à ma terre d'adoption.
C'est gentil, nous sommes dans les Asturies.
Exactement.
Et tu m'avais fait rêver cette année-là en me parlant de ce petit coin d'Espagne méconnu des touristes. Et je vois aujourd'hui que c'est aussi joli que tu me le racontais.
Oui, tout à fait, c'est une grande surprise. D'ailleurs, moi je me souviens... Je suis arrivée dans les Asturies la première fois et je dis mais c'est quoi cet endroit magnifique, on a la mer, la montagne, on a tout. Et je n'avais jamais entendu parler de ma vie des Asturies.
Alors c'est grand comme la Wallonie, un peu plus petit, mais il y a 345 km de côte. Ça veut dire que c'est déchiré, quoi, c'est sauvage.
Oui, oui, oui. Il y a des petites plages, des petites criques vraiment paradisiaques comme à Ibiza. Il y en a d'autres, c'est vraiment en bord de falaise avec des galets au lieu d'avoir du sable fin. C'est très, très, très divers. On sort de la plage et tout de suite, ça monte. Et voilà, César, mon compagnon, dit toujours que si on repassait avec un fer à passer les Asturies, ce serait aussi grand que l'Andalousie.
Ah, c'est dire, c'est dire. Ouais. T'es là depuis combien d'années?
Ça va faire 16 ans, je pense.
16 ans. Ouais. Et dans cette émission, tu vas nous montrer tes coups de cœur.
Oui.
Que va-t-on faire? Où va-t-on aller?
On va tout faire. Je vais vous emmener un petit peu à la mer, un petit peu à la montagne, en bord de falaise, voir des dinosaures, des traces de dinosaures. On va faire un petit peu toute la mer, un peu de musique aussi, des instruments traditionnels. Qui, en fait, les Asturies, c'est une culture celtique. On n'y pense pas non plus, en fait, quand on pense à l'Espagne.
Avec aussi un peu de ukulélé.
Et voilà, ça, c'est ma petite touche à moi. Voilà, je joue normalement de la contrebasse, mais comme j'aime bien voyager, la contrebasse, c'est pas très pratique. Alors, je me suis mis au ukulélé pour pouvoir le prendre partout avec moi et voyager. Et alors, voilà, et je joue dans un groupe où un des éléments, c'est le ukulélé.
On va aussi avec Anne Pollard voyager dans l'Espagne à Bruxelles. Anne, ils sont très nombreux les Espagnols dans notre capitale.
Oui, la romancière Caroline Lamarche qui, dans son dernier roman, L'Asturienne, parle vraiment de ce lien qui unit la Belgique et les Asturies.
Merci Anne, on écoutera ça tout à l'heure. Les Belges du bout du monde dans les Asturies, c'est ce matin jusqu'à 10h sur la première et puis à partir de 14h10 sur la Une en télévision.
Les Belges du bout du monde.
Et il arrive le soleil. Here comes the sun au ukulélé par Mélanie Morse, notre Belge du bout du monde. Merci pour ce cadeau matinal. Avec justement en face de nous le soleil qui se lève, c'est magique.
Exact, on est dans un endroit, ici c'est un de mes endroits préférés, on a tout. Ça c'est vraiment la photo des Asturies, on a les montagnes, on a les pics d'Europe, on a la neige, on a la mer à gauche, c'est une vue à 360 degrés, il n'y a pas de mots pour expliquer ça, il faut le voir.
C'est ici que tu as craqué, c'est ici que tu t'es dit, je reste, oui. j'y reste.
Exact, c'est un endroit où je me suis dit, mais c'est quoi cet endroit magnifique? On a tout. On peut passer une matinée en montagne à la neige et aller se promener l'après-midi sur la plage. J'ai jamais vu d'endroit au monde. J'ai voyagé et j'ai jamais vu d'endroit au monde qui me remplisse autant l'âme.
Alors, tu as voyagé avec ton ukulélé, je dirais même avec tes ukulélés, parce que tu es allé au Costa Rica, entre autres, avec une cargaison de ukulélé. Raconte-nous cette aventure très généreuse, finalement, et très internationale, très artistique.
J'ai voyagé quelques mois au Costa Rica et pendant ce voyage, j'étais passé un mois dans un village indigène, ça s'appelait les Bribri. Donc c'est des indigènes du Costa Rica qui vivent dans la forêt tropicale. Donc j'ai été passé un mois avec eux et en échange de leur hospitalité, je suis allée là, je me souviens de remonter la rivière dans la pirogue et arriver jusqu'au village avec des caisses dans la pirogue chargées d'ukulélé. Donc voilà, j'ai amené une dizaine de ukulélés et je leur ai appris les bases du ukulélé pendant le mois où j'étais là. Et j'ai tout laissé là-bas. Et voilà, maintenant je rêve d'y retourner, voir s'il y a un petit prodige du ukulélé dans le...
Alors, petit prodige et petite guitare. Ce ukulélé, c'est quoi? C'est une petite guitare avec quatre cordes.
L'origine au départ est portugais. Mais voilà, pendant les voyages, les grands explorateurs, ça a terminé à Hawaï, où ça a pris le nom du ukulélé. En hawaïen, ukulélé, ça veut dire puce sauteuse.
Pura vida, comme on dit au Costa Rica.
Oui, pura vida, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un peu le même état d'esprit, c'est vrai. Il fait plus froid en hiver, mais l'état d'esprit est similaire, oui.
Les sons se suivent et ne se ressemblent pas après le ukulélé, les cloches des vaches. Nous sommes dans les Asturies avec Mélanie Mours. J'ai l'impression que dans cette région d'Espagne, il y a plus de vaches, de chevaux et de moutons que d'habitants, non?
Ça doit être un peu préparé, oui, c'est vrai. Parce que les Asturies, c'est pas très peuplé et malheureusement de plus en plus dépeuplé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont forcés de partir à la ville, à Madrid, ou même dans d'autres pays pour trouver du travail, parce que les Asturies, c'est pas évident non plus. Mais évidemment, c'est aussi une terre d'éleveurs, et donc il y a le cheval autochtone des Asturies qui s'appelle El Asturcón, un petit cheval noir. Voilà, aussi beaucoup de vaches à lait, des vaches à viande. Et alors ici, on a les pieds presque dans les excréments de moutons. J'ai un ami ici à côté qui a un troupeau de brebis, qui fait un très bon fromage de brebis.
Et on entend souvent, quand on se balade au loin, les cloches des vaches, la journée, la nuit aussi, parce qu'elles se baladent à l'air libre. On va leur dire, leur pâturage, ce sont les montagnes à perte de vue.
Oui, ils sont tous en liberté ici. Hein, oui. Ça fait partie du paysage sonore.
Oui, à côté de nous aussi, on voit un refuge en pierre. Qui venait ici?
Alors, c'est un refuge qui a été construit dans les années 30, qui servait aux gardes forestiers au départ, mais qui peut être aussi un refuge. Et ça a servi aussi pendant la guerre civile pour la résistance qui était ici, le maquis qui se cachait ici.
Oui, le franquisme a fait beaucoup de victimes.
Tout à fait, oui.
Surtout dans cette région des Asturies où on
était... Oui, parce qu'il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de républicains dans les Asturies, c'est une terre des résistances. Et donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui n'ont toujours pas pu retrouver leur mort et faire leur deuil. Oui, assez triste.
Est-ce qu'on sent encore, des dizaines d'années plus tard, cet esprit résistant, il marque l'Asturien?
Oui, l'Asturien a du caractère, ouais, ça c'est sûr. c'est des gens de caractère. Ouais.
Facile pour une Belge de s'y intégrer?
C'était assez facile, oui, parce que je suis assez passe-partout, où j'aime bien là où je vais, partout, chaque fois que je voyage, j'aime bien essayer de passer le plus inaperçu possible. À mon accent, les gens ne voient pas tout de suite que je suis étrangère, parce que j'ai un accent presque asturien quand je parle espagnol. Mais mon physique me trahit un petit peu, je n'ai pas le physique espagnol, j'ai plus le physique du Nord.
À voir dès 14h10 sur la Une télé tout à l'heure pour cette émission où on va te suivre dans des tas d'endroits différents. Tu vas nous mener aussi en bateau, puis tu nous présenteras ton groupe Faves de Mayo. En fait, c'est un de tes groupes parce que tu as plusieurs groupes musicaux ici.
Oui, plusieurs groupes. Donc Faves de Mayo, c'est que des compositions, c'est du folk instrumental, il n'y a pas de voix, c'est que des instruments. Et puis je joue dans un groupe de jazz manouche où on fait beaucoup du Django Reinhardt, puis des musiques tziganes. Et puis, je suis un projet en solitaire qui s'appelle Como pez en el agua, comme un poisson dans l'eau, One Woman Band. Et alors là, c'est moi toute seule avec tous mes instruments et une machine qui s'appelle Loop Station.
Not so long ago, I was that couple in the street, fighting and crying and shouting. Sometimes we don't see we're going the wrong way, but... Something sweet, and love is something sweet, and love is something sweet, and love is something sweet.
Quelque chose de très doux et de très fort en même temps chez Mélanie Mours. Elle sait tout faire, mère de famille, chef d'entreprise et musicienne, comme un poisson dans l'eau, titre de son projet musical solo. Eh bien, on va embarquer pour une petite croisière avec elle, après un autre groupe de cette région, des Asturies, Yann de Krubel, que je vous propose de découvrir ce matin sur La Première.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur La Première, les Belges du bout du monde.
La Luz Encesa, c'est le titre générique du dernier album de ce groupe asturien, Yann de Kubel. Nous sommes ce matin au cœur des Asturies, chez Mélanie Mours. Elle nous emmène dans quelques instants pour une croisière sur la mer Cantabrique.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Voilà, donc on va aller à un petit port de pêcheurs qui s'appelle Tassonès. Et en 1517, je pense, Charles Quint a débarqué venant directement de Belgique. C'était Charles Quint, mais ici, en fait, il l'appelle le Charles Ier. Es Carlos I d'Espagne.
Alors, on va quitter ici l'estuaire et rentrer dans la mer en longeant la maison. Alors là aussi, c'est un pèlerinage historique. C'est la maison dans laquelle tu as habité quand tu es arrivé dans les Asturies.
Exact. Il y a à peu près 16 ans, la première maison dans laquelle j'habitais, ben voilà, c'est juste ici en face. On la voit d'ici, donc j'avais un paysage magnifique tous les matins.
Alors il y a 16 ans, quand tu es arrivé ici, c'était à la faveur d'un voyage en camionnette, un voyage un peu flower power.
Voilà, tout à fait. Et l'idée, c'était d'aller dans le sud de l'Espagne. Mais voilà, on est arrivé en Asturie et moi, j'ai ouvert grand les yeux, comme un enfant qui découvre quelque chose de tout neuf. Et finalement, j'ai jamais été dans le sud. Je suis restée ici, je dis voilà, c'est tellement beau, je reste ici. Et 16 ans après, je suis toujours là avec deux enfants.
Un amoureux, deux enfants, deux métiers, musicienne, prof de langue, directrice d'académie.
Ouais.
Tu t'ennuies jamais?
Non, j'ai pas une minute. Voilà, je donne cours matin, après-midi, j'ai ouvert mon académie de langue il y a à peu près 8 ans.
Alors t'es dingue de musique, comment s'appelle ton académie?
Alors voilà, oui, bonne question. Mon académie s'appelle Yellow Submarine.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
Alors, Yellow Submarine, c'est aussi ta passion pour les Beatles. On a commencé l'émission avec ton ukulélé et Here Comes the Sun.
Ouais.
C'est vraiment un groupe qui s'est séparé alors que tu n'étais pas encore né. Mais qui t'est cher, je crois.
Oui, mon père écoutait beaucoup les Beatles. Ça fait un peu partie de la bande-son de mon enfance. On avait à peu près toute la collection des CD des Beatles à la maison. Donc c'est vrai, ça fait un peu partie de moi.
Pour découvrir une autre partie de Mélanie, nous débarquons dans un petit port au nord de Villaviciosa.
Voilà, on est ici à Tassonès. Donc c'est un petit port de pêcheurs très typique. C'est ici que Charles Quint a débarqué en 1517. Nous avons ici avec nous Cristina, qui est la présidente de l'association de la commémoration du débarquement de Charles Quint.
Cristina, bonjour, merci de nous raconter, parce que vous êtes une habitante de Tassonès et vous êtes passionnée par l'histoire, à tel point que vous faites des reconstitutions chaque année de cette arrivée il y a 504 ans. C'est ici qu'il est arrivé comme roi et empereur.
Ah oui, sí. Tazones es aquí donde llegó Carlos en 1517, el 19 de septiembre.
Quand il est arrivé, il n'a pas été très bien accueilli.
No le acogieron muy bien, pues porque ellos se creyeron al ver tantos barcos, pensaron que eran que les venían a atacar, y la gente del pueblo, los que aquí estaban, los habitantes, creyeron que tenían que defenderse y la acogieron pues con lo que tenían para defenderse, con palos y lo que fuese.
Voilà, donc les habitants ici n'ont pas très bien reçu, ils ont eu peur au départ, ils pensaient qu'on venait les attaquer, imaginez toute la flotte qui débarque ici, donc ils sont tous descendus avec ce qu'ils avaient sous la main, des bâtons, voilà, ce qu'ils avaient pour se défendre et attaquer les attaquants.
Toi, tu as été accueilli plus vite, chaleureusement. Tu n'as pas eu des galions qui sont sortis pour te lancer des coups de canon?
Non, on m'a accueilli bras ouverts. Le peuple asturien est très, très accueillant. Et voilà, je me suis tout de suite sentie à ma place.
On voit qu'il y a pas mal de points communs, de ponts entre la Belgique et les Asturies.
Oui, moi je dis toujours que les Asturiens et les Belges ont un caractère un peu similaire, aussi, très ouvert d'esprit, très sympathique, très souriant.
Que tengo muchas ganas de ir a la Grand Place.
Les rêves d'aller voir la Grand Place à Bruxelles.
Oui.
Il faut venir pour l'instant avec les décorations de Noël, Navidad, les illuminations. C'est superbe.
Sí, que es muy bonito. Pero nunca estuve en la Grand Place, que ahora será muy bonito, seguro, porque además ya veo la primera semana de julio, cuando se hace la recreación.
De Charles Quint sur la Grand Place de Bruxelles, c'est le premier week-end de juillet.
Bon, ben, bienvenue l'été prochain alors.
Ah, les prochaines années, si c'est possible. Je suis ici totalement convaincue. Si, si.
En attendant le plaisir d'accueillir Christina sur la Grand Place de Bruxelles l'été prochain, allons visiter la maison de Mélanie, maison passive sur une petite montagne dans la région de Villa Viciosa.
On profite un maximum des rayons de soleil toute la journée, s'il y en a. Et en fait, toute la chaleur reste à l'intérieur pendant plusieurs jours, il n'y a rien qui s'échappe. Ça met la chaleur qui rentre met plusieurs jours à en sortir.
Alors, c'est une maison que tu as construite. Vous avez, avec César, acheté un terrain et vraiment imaginé la maison de vos rêves.
On n'a pas construit avec nos propres mains, mais on a fait construire une maison passive. Ça faisait longtemps qu'on y réfléchissait. On a même passé par plusieurs idées aussi. On voulait faire au départ une maison avec des ballots de paille. Mais voilà, finalement, c'est transformé en maison passive. C'est 100% bois. Et l'isolement de la maison est aussi 100%. Donc, c'est une construction écologique aussi. Ça fait un an qu'on est ici dedans et c'est le bonheur. Hein. Avec la vue qu'on a en plus, c'est magnifique.
Alors, des grandes baies vitrées, presque pas de mur, hein, des tas de fenêtres partout qui donnent sur l'extérieur, évidemment, et aussi sur l'intérieur. Hein, ça, c'est très original dans la maison. Et puis, on voit tes enfants, 2 et 5 ans. Tu peux nous les présenter?
Oui, alors vous avez Noah qui a 5 ans et Chloé qui est la petite dernière qui a 2 ans et demi. Ils sont belgo-asturiens.
Conçus en Asturie,
oui.
Mais en Asturie. Et donc,
ils sont encore plus asturiens que moi.
Oui, tout à fait. Alors, tu les élèves, j'imagine, en français et en espagnol?
Oui, oui, ils sont bilingues. Moi, je leur parle en français au maximum et le papa leur parle en espagnol. Yeah, yeah. Donc, voilà.
Bonjour, Edgar et Violette dans Belgique. Chloé, mais oh yes, tu m'entends, Chloé?
Bonjour, Edgar et Violette.
Je crois que dans Belgique... il y a de la neige.
Il faut décrire le paysage, Mélanie.
Voilà, on a une belle vue ici, presque à 360 degrés. Et donc, on voit toute la vallée qui est très, très, très boisée. Il y a beaucoup de forêts. Derrière, on voit la Sierra del Chueve. Et en fait, derrière ça, quand on s'est dégagé, il n'y a pas de nuages, on voit aussi les pics d'Europe au loin. Et alors, sur notre gauche, on voit la mer. Je ne sais pas si tu vois là. Là, ça commence à se dégager un petit peu. On voit un petit bout de mer, là, tout au bout.
Alors, vous avez aussi, à côté de la maison... un potager?
Oui, on a un potager communautaire. Donc, ça veut dire qu'avec 4 autres familles dans le village, on a un grand terrain qu'on nous a prêté. Et donc, on fait potager tous ensemble. Par exemple, on a planté 500 têtes d'ail, 500 ail, des patates. On en a eu des kilos, des kilos. Là, on vient de ramasser les potimarrons. On a eu une cinquantaine de potimarrons par famille.
De quoi faire pousser les enfants, des produits sains.
Oui, et c'est merveilleux pour eux aussi de voir planter tout le processus et de planter la première graine jusqu'au moment où on va récolter les légumes comme apprentissage de vie, c'est fabuleux.
Et la voisine cultive des myrtilles?
Voilà, ma voisine est belge, Floriane. Voilà, ils ont pas mal d'hectares. Et voilà, chaque année en été, ils vont ramasser, cueillir les myrtilles. Ils font du très bon jus. Ma maman fait de la très bonne confiture avec les myrtilles d'ici. Voilà.
La maman n'est pas loin, ton cousin non plus, Mélanie.
Oui, il y a mon cousin qui est venu nous rejoindre il y a quelques années, ouais, pour notre bonheur.
C'est Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Adrien.
Tu nous accueilles dans une grande ville, hein, comparée à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Oui, une grande ville, Gijón, d'à peu près 270 000 habitants, sans dire de bêtises. Ouais.
Alors vous la verrez cet après-midi, 14h10 à la télé, de prime abord, mais vraiment de prime abord, c'est au stand. Avec des grands gratte-ciel, une grande jetée, une espèce d'estacade aussi. C'est quoi la cloche qu'on entend, Jean-Baptiste?
Eh bien, c'est l'église de San Pedro, juste face à la mer ici.
Raconte-nous vos trajectoires, elles sont similaires. Vous êtes tous les deux dans les langues et dans la musique.
Mais oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que je suis arrivé ici en Asturie en cherchant un boulot de prof de langue. Et c'est marrant parce que Mela avait déjà son académie d'anglais du ukulélé à Villa Viciosa. Et moi, en cherchant du boulot ici, c'est quoi, l'été 2018, ben pour finir, j'ai trouvé un boulot de directeur d'académie d'anglais, enfin d'anglais, de portugais, d'espagnol, de français. Et donc voilà, directeur d'académie.
Alors vous êtes tous les deux aussi en couple mixte?
Oui, ben oui, Mélanie avec son Asturien, avec César, et moi, ben, c'est vrai que j'ai ma princesse Inca. Donc j'ai rencontré une jolie péruvienne en Irlande. Et donc on a fait pas mal de voyages, etc. Et puis maintenant, voilà, on est ici en Asturie, mariés. Et voilà, la grande aventure asturienne. Oui.
Après pas mal de séjours aussi en Amérique latine, t'as bourlingué dans des petits villages comme Mélanie?
Exactement, oui. On a pris une belle année sabbatique pour un peu découvrir l'Amérique du Sud, justement. Donc on a fait quoi? L'Équateur, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, la Colombie, les Galapagos. Et voilà, la plus belle école de la vie, c'est le voyage, mine de rien. Donc c'est vrai que faire du volontariat, ça donne plein de choses. C'est enrichissant à tout point de vue.
Alors, ouais. Tu as vécu après en Irlande. Qu'est-ce que tu as trouvé ici, dans les Asturies, que tu n'avais pas en Irlande ?
Ouh, bonne question. Je dirais, c'est peut-être, il y a un peu plus d'abondance ici en Asturie. En Irlande, il y a plus de soleil. Ouais. La nourriture est plus saine aussi. Et puis, c'est vrai que l'Irlande, ben, c'est sauvage, c'est des belles montagnes, etc. Mais ça manque de forêt, des fois. Ici, c'est vrai que l'Asturie, ben, c'est couvert de forêt. Il y a encore le loup, il y a l'ours. C'est plus sauvage. Maintenant, ça a toujours son côté celtique. Les gens boivent du cidre, ils jouent de la cornemuse. Il y a toujours des mélanges de cultures celtes qu'on retrouve ici, qui sont super intéressants. Ouais.
Donc pour ça, t'es pas trop dépaysé ?
Pas trop, non, pas trop. Il manque la Guinness, mais bon, on s'y fait. Il y a toujours de la triple carmélite et de la chimée bleue ici, donc ça va aussi.
Alors vous avez aussi dans la famille des musiciens célèbres ?
Ben oui, voilà, notre oncle Michel Mours, il y a 40 ans, je pense que c'est en 81, a représenté la Belgique à l'Eurovision, avec la chanson Eurovision d'ailleurs, le même titre, Eurovision.
Donc Telex qui chantait aussi en route vers de nouvelles aventures. Ça vous a bercé, ça, l'oncle musicien ?
Oui, moi je me souviens de sauter sur le divan de la maison en chantant Spike Jones. Oui, nous on a pas mal écouté quand on était jeunes. Hein.
Ah ouais, un bon Moscow Disco, non, c'est vrai que c'était toujours sympa. C'est peut-être ce côté de la famille justement, où il y a quand même pas mal d'artistes ou des gens plus créatifs aussi. Ouais.
Avec un clin d'œil, évidemment, à notre collègue Marc Moulin. Après la pub, nous ferons la connaissance du papa de Mélanie, de son groupe aussi, Faves de Mayo, et puis une rencontre avec Caroline Lamarche, auteure du roman L'Asturienne.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jovenot.
Buenos dias et bienvenue dans les Asturies, une région belle et sauvage où l'on fait des rencontres complètement étonnantes. Dans une dizaine de minutes, nous partirons à la découverte des ours dans un parc naturel. Mais là tout de suite, les Mours, bah oui, la famille de Mélanie.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Voici maintenant le papa de Mélanie. Patrick, bonjour.
Bonjour Andréa.
C'est un petit peu vous le responsable de l'émission, parce que c'est vous qui avez, je vais pas dire dénoncé.
Dénoncé, oui. Je me suis permis de faire savoir qu'il y avait une Belge qui était expatriée en Asturie et que c'est un superbe pays.
Alors ici, vous l'entendez, ami auditeur de la première, c'est très radiophonique comme paysage. On entend les vagues s'éclater contre les rochers. Où sommes-nous ?
On est ici à l'embouchure du rio Guadamia et sur le site des Bouffonnes de Pria. En fait, il y a des falaises qui tombent dans la mer, mais il y a un phénomène géologique d'érosion qui a créé des espèces de cheminées dans les falaises. Et ça crée un geyser qui monte parfois jusqu'à plus de 20 mètres.
Quel regard portez-vous sur le parcours de votre fille ? Qui a quitté le lit très tôt, qui a voyagé au Costa Rica, qui s'est installé ici, qui a dû peut-être à un moment donné vous briser le cœur en partant.
Effectivement, mais Mélanie m'a toujours étonné dans ses audaces, dans ses engagements, dans ses prises de décision, de trouver une autonomie, de partir à l'aventure comme ça à travers le monde. Elle m'a toujours subjugué pour ça.
Un peu fier, papa.
Oh, j'ai 3 enfants, je suis fier de tous, mais Mélanie a un très 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 beau parcours, vraiment. Ouais.
C'est vrai, vous pouvez être fier d'elle, et vous la verrez tout à l'heure sur la une, 14h10 en télé, avec ces images de spectacle grandiose de ces vagues qui s'écrasent sur les falaises et qui se transforment plus loin en geyser. C'est absolument sublime.
Les Belges du bout du monde, sur la première.
Le climat vivifiant des Asturies a plus d'un avantage. C'est geyser, l'herbe toujours verte, et puis les petits concerts improvisés sous les terrasses couvertes.
On dit Asturias, si es verde, es por algo. C'est pas vert pour rien, les Asturies. Voilà, mais voilà, toujours le soleil dans le cœur et la musique.
Tu nous présentes tes camarades ?
Ah ben ici, on est sous la pluie, sous un petit toit, et on est avec Fer et Juan. Et voilà, on joue un petit morceau, ça c'est pas notre composition, mais ça s'appelle Bubamara. Un, dos, tres, sí.
faut expliquer un peu ce qui se passe. On joue à l'abri de la pluie. Je dis « on » parce que je suis vraiment de tout cœur avec vous. Mélanie, il pleut dehors, il pleut des cordes. Il y a un chien qui court après notre réalisateur. Bref, c'est la joyeuse impro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance de ton groupe qui est justement très, très festive?
Oui, en fait, ça c'était une version, mais voilà, d'habitude c'est, il y a trois ukulélés, une contrebasse, un accordéon, et depuis peu on a un violoncelliste avec nous, et c'est de la musique qui fait du bien. Ce serait chouette de diffuser Fabes de Mayo en Belgique, et trouver quelqu'un qui nous trouve un petit concert là-bas, ce serait génial, j'en rêve.
Refaire une tournée au pays natal, oui, montrer un peu tout ce que tu as appris de tes voyages en Amérique centrale et ici, dans les Asturies. Ce cocktail musical, c'est vraiment de la musique du monde?
Oui, c'est de la musique du monde, mais c'est des compositions. Donc ça vient vraiment, ça sort de nous. Donc un peu tout ce qu'on a voyagé, tout ce qu'on a vu, toutes nos rencontres, voilà, tout ça est à l'intérieur de nous, ressort sous forme de musique. J'ai commencé avec le piano, puis la contrebasse, et puis l'accordéon. Et voilà, il n'y avait aucun de ces instruments-là qui était pratique pour voyager. Donc voilà, quand je suis partie au Costa Rica, je me suis dit, je vais acheter un ukulélé. Et là, je me suis mise au ukulélé. Et voilà, petit à petit, je me suis mise dans le monde du ukulélé.
Cocorico, vous avez reçu un award, une espèce de trophée de la musique, une victoire.
Oui, tout à fait. On a reçu le prix de la meilleure chanson folk de l'année pour un morceau qui a justement un titre en français qui s'appelle « La neige qui tombe », que j'avais composé un jour où j'étais en Belgique et il avait commencé à neiger. Et voilà, c'est un de nos morceaux, un de nos hits, entre guillemets, et pour lequel on a reçu le prix de la meilleure chanson. Voilà, c'est ce qu'on entend ici.
C'est en Belgique, à ANU, peut-être à l'Académie de musique, que tu as fait tes premiers pas, que tu as appris.
Oui, tout à fait. Bien, j'ai lancé un petit clin d'œil à mon prof de piano, Vincent Mossia, parce que c'est grâce à lui, voilà, on a commencé à jouer, on a formé un groupe de musique folk, de musique du monde. Il y avait justement mon cousin Jean-Baptiste avec nous. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à jouer dans des groupes de musique. Donc on joue beaucoup du Django Reinhardt, qui vient aussi de Belgique. Et voilà, il y a aussi de la musique tzigane, c'est très, très dansant, très joyeux, très gai à jouer.
Et donc tu es un peu, en tant que femme, à la tête aussi de ces groupes. Ça renverse aussi les clichés qu'on a parfois sur l'Espagne en disant pays macho et tout. Et là, c'est une nana et un boys band.
Mais le machisme est toujours là. Mais voilà, c'est vrai que c'est gai d'être surtout une femme à la contrebasse aussi, c'est rare. Et la contrebasse, c'est quelque chose de grave, qui sonne grave, qui amène le rythme, qui soutient un peu les chansons. Donc c'est vrai que c'est étonnant que ce soit une femme. Mais voilà, ça fait toute ma fierté.
Est-ce que je peux vous demander un peu, vous pouvez le dire en espagnol et on traduira, ce que vous pensez de Mélanie?
Que se debería de presentar alcaldesa del pueblo.
Il dit que je vais me présenter comme maire de la ville.
Mélanie es una chica majísima, encantadora, y estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Que siga por mucho tiempo.
Non, oui, je dis que voilà, que j'étais très gentille, ils étaient enchantés de m'avoir ici, et voilà.
Bueno, qué decir, que menos mal que ha venido ella a juntarnos, y gracias a ella estamos juntos tocando música.
Il dit que grâce à moi, on est tous ensemble ici en train de jouer, et que voilà, sans moi, ça ne serait pas arrivé.
Ça fait plaisir.
Oui, très plaisir. Ouais.
T'es une femme tout-terrain?
Oui, on peut dire ça, oui.
Mère de famille, chef d'entreprise, musicienne, directrice d'académie.
Parfois, c'est un peu trop, hein, parfois. Parfois, je me dis, j'en fais un peu trop. Il faudrait peut-être, de temps en temps, mettre un peu le frein à main.
Je vois, Anne Pollard, que vous aussi, vous dansez, vous ne résistez pas à cette musique asturienne, c'est pas mal, hein?
Oui, c'est super chouette.
Fabes de Mayo, on l'écoutera plus amplement tout à l'heure. Après, une petite page, littérature asturienne, belgo-asturienne.
Tout à fait, avec Caroline Lamarche et son récit L'Asturienne. L'Asturienne du nom de cette société belge fondée en 1853 et qui pendant 150 ans a exploité les mines de charbon et de zinc dans les Asturies. Alors sa famille était vraiment pionnière là-bas et elle jetait des ponts entre Liège et les Asturies. Et c'est cette histoire qu'elle raconte dans son ouvrage.
Les Wallons étaient à l'époque les champions des techniques métallurgiques. La Belgique était la deuxième puissance industrielle mondiale après l'Angleterre. L'Espagne, très en retard en termes d'infrastructures et de prospection minière, a fait appel à des compagnies étrangères pour développer le pays. Les Liégeois, les familles Le Swan et Hauser, mes ancêtres maternels, se sont imposés par leurs connaissances techniques et leur esprit d'aventure, mais aussi par leur grande capacité d'adaptation. Ces gens parlaient couramment espagnol après 3 mois et ont tout de suite adoré la région et ses habitants. Consacrer un récit à l'origine de cette saga industrielle allait de soi, dans la mesure où ma famille dispose d'un trésor d'archives considérables, archives intimes, lettres entre époux séparés par les voyages lointains, mais aussi lettres d'affaires, certaines assez exceptionnelles. On a par exemple 2 billets manuscrits signés John Cockerill, ou encore la supplique du père d'un ouvrier mort accidentellement dans la mine, où il réclame une aide pour que sa femme et lui puissent survivre. Mon père a été l'archiviste familial. Toute sa vie, il s'est passionné pour l'histoire de l'Asturienne pour laquelle il travaillait. À la dissolution de la compagnie, toute une série d'archives lui ont été confiées. Il a passé beaucoup de temps à les classer, les compléter, les étiqueter. J'ai trouvé ce trésor dans des malles et des armoires 12 ans après sa mort. Le plaisir de la découverte a été si intense que je ne puis qu'encourager les personnes qui me lisent à ne pas se débarrasser trop vite de leurs archives. Le passé éclaire considérablement le présent et les enjeux de notre époque. En une génération, l'écriture manuscrite a complètement disparu. Manier des feuilles de papier couvertes d'une belle écriture à la plume est un émerveillement.
Émerveillement que l'on retrouve dans ce récit de Caroline Lamarche. Où peut-on se le procurer, Anne Pollard ?
Alors, il est publié aux éditions Les Impressions Nouvelles et il se trouve dans toutes les bonnes librairies.
Je sais ce que je vais lire tout à l'heure au coin du feu. Charles Quint, l'Asturienne, Mélanie Mours, il y a décidément quelque chose de belge dans les Asturies. Et ça continue avec le groupe de Mélanie, Fabès des Maillots et La Neige qui tombe, leur morceau fétiche.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Chouette hein, cette musique, c'est le groupe Fabès des Maillots, le groupe de notre Belge du bout du monde, Mélanie Mours, avec La Neige qui tombe, un titre qui a obtenu la victoire de la musique là-bas dans les Asturies. Allez, chaussez vos bottes, nous partons maintenant en forêt avec Pierre Boutonnet, l'homme qui a vu l'ours. Et Mélanie nous raconte comment elle a découvert ce grand naturaliste.
J'ai rencontré Pierre grâce à César, donc César qui est mon compagnon, qui amène Internet dans le milieu rural, là où les grandes compagnies n'ont aucun intérêt. Et voilà, c'est comme ça qu'on a rencontré Pierre, et donc, qui a Internet avec Sestafelia de César et qui aussi, voilà, un bel exemple de quelqu'un qui aime la nature aussi, qui vit en respect de la nature et dans un endroit ici magnifique.
Pierre Boutonnet, bonjour.
Bonjour.
Où sommes-nous ?
Eh bien, nous sommes au plus profond des Asturies. Là, on ne peut pas faire plus profond, dans la vallée del Trubia, là où nous nous sommes installés depuis 7 ans avec Marie et les enfants. Et comme le disait Mélanie, voilà, dans un endroit qui est marqué par le sauvage. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans les Asturies, c'est qu'on est dans une région qui est, je trouve, extrêmement bien conservée.
J'aimerais que tu nous racontes, Pierre, comment tu as découvert cette finca.
Quand on a vraiment décidé de venir s'installer ici, parce que dans la famille, on était tous amoureux de la région, on a cherché, c'était pas facile de France de venir pour chercher. Et puis finalement, grâce à un ami notamment, un ami qui s'occupe de l'ours, qui est garde ici dans le parc de Somiedo, juste à côté. C'est grâce à lui qu'on a trouvé ce petit coin de paradis, cette petite finca, parce que figurez-vous que c'était un endroit un peu abandonné, mais il y avait quand même un rucher que le propriétaire entretenait. Et un jour, une nuit plus exactement, il y a un ours qui est venu pour... comme on le sait, manger le couvain et le miel des ruches, parce que les ours sont très gourmands de cette nourriture-là. Donc le propriétaire, évidemment pas content, a fait appel aux gardes pour qu'ils viennent faire un constat pour être remboursés, parce qu'ici ça marche comme ça. Et donc mon ami Juan, le garde, est venu faire un constat, et quand il a découvert l'endroit, il a tout de suite pensé à moi, parce qu'il a trouvé que c'était un bel endroit pour moi, parce qu'il me connaît bien. Donc bref, comme c'était un endroit dont le propriétaire ne voulait plus trop s'occuper, c'est vrai que on a pu acquérir le site. Donc on va dire que c'est grâce à l'ours si on est venu s'installer ici.
Merci l'ours et merci les abeilles.
Ouais,
alors ici tu peux voir des tas de rapaces. Tu es souvent les yeux rivés à tes lunettes, tes jumelles.
Juste en face dans la gorge qui est juste en face de la maison, il y a un couple d'aigles royaux qui nichent, que je suis chaque année, qui fait son nid là. Et puis on a plein d'autres espèces de rapaces comme les milans, les bus, méduse, un autre petit vautour qui s'appelle le vautour percnoptère et plein d'autres aussi. Oui, oui, c'est un paradis de la nature et des rapaces.
Alors ça c'est dans le ciel. Sinon quand on s'enfonce dans la forêt, on peut observer, tu l'as dit, l'ours brun. Comment est-ce que tu le débusques? Tu vis presque au quotidien avec lui?
Alors on vit au quotidien avec lui parce qu'il est présent autour de la maison toute l'année. Il est installé là, il se reproduit là. Après pour le débusquer, effectivement c'est une autre affaire. C'est un animal qui est très discret. C'est un animal qui est farouche, qui est nocturne, qui est rare et qui est discret. On a une population d'ours qui est en augmentation, donc j'ai envie de dire, il se voit plus facilement chaque année parce que la population augmente, et ça c'est très satisfaisant.
Alors tu es éleveur aussi, tu as des brebis ici, tu as un peu de volaille, est-ce que c'est compatible avec la présence si proche de l'ours?
On a à cœur de donner, quand on prépare les repas, de la nourriture qu'on produit nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on a un verger, des arbres fruitiers et des animaux domestiques, comme des poules et des brebis, effectivement. Et c'est notre défi, c'est de montrer par l'exemple qu'on arrive à élever des animaux et que c'est compatible avec la faune sauvage en général et les prédateurs en particulier. Parce que donc ici, on a des ours, mais on a aussi des loups qui vivent autour de la maison. On a plusieurs meutes qui sont installées un peu sur les hauteurs. On a mis en place des mesures de protection, comme des clôtures électriques. On les rentre tous les soirs. On est très attentif. Et pour l'instant, ça marche.
Ça ne m'étonne pas, Mélanie, que tu t'entendes bien avec Pierre, parce que j'ai l'impression que vous êtes animés des mêmes valeurs.
Mais nous, dans ma famille, on a toujours été aussi élevés dans le respect de la nature. J'ai un oncle que Pierre connaît, oui, qui est naturaliste, René Rosou, qui habite en France, spécialiste de la loutre. Et donc nous, on a toujours été aussi élevés dans le respect de la nature, être attentif, regarder les oiseaux, essayer d'identifier ce qu'on voit, les rapaces. Donc ici, c'est fabuleux, en Asturie, on a ça tout le temps, au quotidien.
C'est vrai, on a cette chance, c'est pour ça qu'on est là. De toute façon, dans la nature, j'ai envie de dire, il se passe toujours quelque chose. La nature, quand elle est présente, qu'il y ait de la neige, ça fait partie du cortège des choses qui arrivent au fil des saisons. Donc, quand on est naturaliste et qu'on est dans cet état d'esprit, évidemment qu'on préférerait que toutes les conditions soient réunies, idéales, mais c'est pas grave. La tempête, ça fait aussi partie de la nature et moi, ça me plaît aussi.
C'est ça le bonheur, c'est pas d'attendre que la pluie cesse, c'est de faire avec, c'est de mettre les bottes.
Ouais, c'est de s'adapter.
La parka et on y va.
Exactement, c'est de positiver, c'est de s'adapter. Et là, en ce moment, par exemple, c'est parfait pour aller voir les salamandres et les grenouilles. Donc il y a toujours quelque chose à voir dans la nature.
Je foncerai comme un ours aux pattes de velours. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours.
Cette finca, c'est vraiment une histoire de couple et d'amour. Hein. J'avancerai comme un ours aux pattes de velours. Amour partagé avec Marie, l'épouse de Pierre. Elle nous raconte une de ses plus belles rencontres avec l'ours brun.
Je fais des balades quotidiennes le soir, tard, avec la chienne. Et c'est vrai que, par exemple, là, cette année, juste à notre portail, en mettant ma lampe pour éclairer, parce qu'on est tout le temps en recherche aussi de la rencontre qui va nous émouvoir, nous étonner, que ce soit l'ours, le chat sauvage, la martre, tout le monde, on est ému de toute façon à chaque fois qu'on voit un animal sauvage. Et là, avec ma lampe, je cherche des yeux pour avoir le plaisir, ou des vols de chouettes effraies, de chouettes ulottes. Et là, je mets ma lampe dans le virage de mon portail, et dans le virage, tel une scène de théâtre, un ours qui traverse le chemin, très majestueux. Ce jour-là, celui-ci, je ne l'ai pas dérangé, en fait. Il est arrivé dans mon faisceau de lampe. J'ai pu le regarder, j'ai pu même un tout petit peu le suivre. Mais du coup, maintenant, je me balade tous les soirs et je mets la lampe. Et à chaque fois, secrètement, j'espère que à nouveau la vedette va passer dans mon faisceau. Voilà, en quittant la France, en venant vivre dans une région avec des ours et de cohabiter avec eux, avec tout ce qu'on aime nous aussi, c'est-à-dire on aime comme les ours les figues, les noix, les noisettes, les framboises, la viande d'agneau, tout ce qu'on aime, l'ours l'aime aussi. On n'est pas à l'abri d'un accident un jour, que je retrouve effectivement peut-être une brebis. Mais on fait vraiment tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et ce qui est donc émouvant quand même, c'est que pour l'instant, on a réussi, quoi. Au bout de, ça fait 6 ans.
On essaie d'un peu d'anticiper, ce qui n'est pas toujours facile. Ouais. Mais voilà, il y a des comportements à connaître, il y a des choses à, des règles à respecter. Ouais. Et on est, bon, évidemment que nous, c'est notre passion, donc on est sur le terrain tout le temps, on est très attentifs. Mais pour l'instant, on y arrive, comme tu dis. Ouais, ouais, c'est intéressant.
On a envie de cette tolérance et de cette harmonie.
Si on veut venir passer quelques jours pour observer les ours dans votre finca, c'est possible ?
On a un petit gîte de groupe, on organise des séjours, puisque moi c'est mon métier. Et oui, c'est possible. C'est possible de nous contacter, de réserver ce gîte de groupe pour, comme nous, profiter au quotidien, s'immerger dans cette nature asturienne qui vaut la peine d'être découverte. Tous les gens qui viennent dans les Asturies, ils n'ont qu'une envie, c'est revenir. Donc ça veut sûrement dire quelque chose.
Casa Folgueras.
C'est le nom du gîte.
Alors, ça veut dire quoi, Folgueras ?
Alors, en asturien, ça veut dire la feuille de fougère. On est entouré de fougères, de châtaigniers, de noisetiers.
Merci beaucoup. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Et bonne chance.
Dernière bouffée de musique asturienne pour terminer cette émission Les Belges du bout du monde. Mélanie, avec toi, tu as voulu réunir ici les musiciens de la première heure.
Oui, mais voilà, c'est énormément important en ce moment parce que voilà, ça représente la musique asturienne, les instruments traditionnels et ici trois personnes qui ont pour moi énormément d'importance. C'est les premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivée ici. Donc avec qui on a fait beaucoup de sorties, beaucoup de festivals, on a été à beaucoup de concerts, on a joué ensemble. Voilà, c'est une belle partie de mon début en Asturie.
Alors dans cette musique que vous venez d'écouter, il y a différents instruments joués par ces musiciens. Il y a Simone, merci beaucoup, grâce à Simone. Ton instrument, c'était quoi ? Qu'est-ce que tu joues ? C'est un djembé ?
Percussion traditionnelle. Bueno, djembé et percussion traditionnelle.
Nel, toi, quel instrument tu jouais ?
Yo toco l'accordion diatónica. Que bueno, y un instrumento que está esparcido por toda Europa, por todo el mundo, pero bueno, aquí concretamente también forma parte de los instrumentos tradicionales.
Un instrument qui se joue un peu partout dans le monde, mais il fait aussi partie de la musique asturienne. Voilà.
Alors, l'instrument aussi qui était particulier dans ce morceau, c'était non pas de la cornemuse, mais Martine, comment s'appelle l'instrument que tu joues ici ?
Pues yo toco la gaita, que también es un instrumento esparcido por todo el mundo. Y que aquí en Asturias tiene arraigo, al menos desde el siglo XII, que tengamos constancia.
Aussi loin qu'il puisse se souvenir, donc dans les archives d'histoire, ça peut remonter au XIIe siècle, la présence de la gaita en Asturie.
En tout cas, je voulais vous remercier pour ce bouquet final. Gracias, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Et toi, te remercier aussi, Mélanie,
un
pour tout ce que tu nous as montré dans l'émission. Tu es là depuis une quinzaine d'années. Ton cœur est chevillé ici maintenant. J'imagine que tu vas grandir encore avec tes enfants, tous tes projets, ton école, ton académie, tes groupes. Tu es en Asturie et tu y restes.
Et j'y resterai. Je pense que là, maintenant, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Je fais partie du paysage musical, aussi avec l'académie, mes enfants sont asturiens, sont belgo-asturiens. Donc je pense que là, maintenant, je ne saurais plus faire marche arrière.
On va aussi remercier César, ton amoureux, pour sa participation. Gracias, César.
Merci.
Bonne continuation à toi.
Merci.
En Belgique aussi, hein. Tu aimes bien retourner en Belgique. Hein.
Oui, pour la frite et pour la bière.
Ah, alors attention, parce que j'ai justement une petite surprise pour vous, une trappiste de Belgique. Voilà. Pour se réchauffer, hein, parce qu'ils ont eu beaucoup de mérite de jouer en ce froid matin d'hiver. Il faisait très, très frisqué. Et malgré tout, sans les moufles, sans les gants et avec le sourire, ils ont joué. Infiniment merci à eux. La semaine prochaine, nous serons du côté de l'Éthiopie avec Mitiku Belachef, le berger devenu chirurgien. Je remercie Paul Michel qui mettait cette émission en onde, réalisée avec la collaboration de l'Office du tourisme espagnol et asturien. Hasta luego, amigos.
Hasta luego.
A siempre.
Pucha Asturias.
Pucha.
Venga, abre la ojo.
Thank you.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Podcast.